Développement pacifique de l'électricité, clamaient haut et fort les réactionnaires. Mais nous savions que la chaîne électrique n'était que la première étape. Je n'oublierai jamais le spectacle de toutes ces victimes de la guerre électrique qui dévalaient les rues comme des fous. Ces têtes rejetées en arrière, ces bouches affreusement béantes. Ces langues qui lançaient des étincelles pareilles à des têtes d'épingles incrustées de joyaux. Les électrons jaillissaient de leur nez. Ces pauvres condamnés n'avaient plus qu'une seule idée en tête. Trouver une surface métallique, reliée à la Terre ou non, et boucler l'horrible circuit. On les voyait du coin de l'œil en se rendant au travail. Ils grimpaient aux poteaux électriques sans se soucier des corbeaux qui leur becquetaient le crâne. Puis, parvenus au fil téléphonique, ils se mettaient à ronger et déchiqueter l'isolant jusqu'à ce qu'une de leurs dents en or entre en contact avec le câble. Tout le monde s'arrêtait alors pour assister à la décharge lascive des éclairs en boule. Puis les couleurs se dissolvaient et un restant de squelette carbonisé tombait lentement en décrivant des volutes, pour enfin se désintégrer en minces rubans de cendres. Si vous étiez au téléphone quand survenait l'une de ces tragédies, vous couriez le risque d'être infecté. C'est ainsi que débuta la carrière d'Electric Emily. Et j'avoue que je préférerais une dizaine de maris typhoïdes à une seule de ses semblables. Emily avait 12 ans quand les Riemann lui demandèrent de garder leur bébé. Après avoir couché l'enfant, elle se rendit dans la cuisine où grommelaient des centaines d'appareils électroménagers et ouvrit la porte du réfrigérateur. Elle savait qu'elle ne devait pas manger une nourriture qui ne lui appartenait pas, surtout en l'absence des maîtres des lieux. Mais elle avait très très faim et ça faisait 20 minutes que la radio vendait les dernières saloperies alimentaires à la mode. Les crusty chips du docteur Dodger, les cœurs de tortue frits, le soda électrique et réfrangible du docteur Dodger. C'est si bon que votre rythme de transmutation s'accélère. Les sucreries fourrées aux essences pécheresses, les loukoums, ça faisait fureur à l'époque, comme le mahjong et les premiers jeux vidéo, des engins primitifs munis de centaines de tubes à vide en guise d'œilleton. Les chapons en provenance des abattoirs du Nebraska, les granules explosives rechargeables, les hamburgers d'Oreo Grill, les milkshakes si épais qu'on pouvait les retourner sans qu'ils se renversent. Sans parler des chocolats polyphasés du docteur Dodger, contenant chacun une petite décharge de courant au goût du jour. Oui, rien que ça. Emily salivait. Il restait des cacahuètes rances dans le salon, et Emily les mangea toutes. C'est alors qu'elle se faufila dans la cuisine, pieds nus sur le carrelage froid, l'oreille aux aguets au cas où la voiture d'Iriman descendrait l'allée. Mais non, il régnait un calme onctueux digne de la meilleure vaseline allemande. Elle ouvrit alors en grand l'énorme porte blanche, regarda à l'intérieur et vit la moitié d'un gâteau au chocolat. Oh ! Il était si chocolaté avec ses 15 cm de glaçage au chocolat marron foncé qu'ici, comme dit l'ami Dante, les forces manquèrent à ma sublime vision. Ou une excuse de ce genre. Car comment décrire le chocolat an sich par de misérables mots? Sous l'éclatante couche glacée, une lumière brillait. Et, pareil à quelque arôme réfracté, cette lumière passa en Emily, je cite, distillant sa douceur en son cœur. Paradis, chant 33. Jusqu'à prendre entière possession de son âme comme un vaste problème insoluble ou comme un géomètre opérant cette foutue quadrature du cercle. Une splendeur soudaine illumina son esprit et elle comprit alors que tout était possible. La salive dégoulina le long de son menton. Car la volonté ne peut mourir si elle ne le veut pas et s'abandonne à la nature du gâteau au chocolat, même si la crainte des Riemann est un sacré repoussoir. La volonté eût-elle persisté dans la perfection de son essence, comme celle qui soutint Mr. White lorsqu'il traversa les immensités sauvages? Elle aurait pu se montrer ô combien impitoyable avec son appétit, car une seule bouchée suffit pour que l'âme réintègre sa maison stellaire. De même que, sur toute la circonférence de son enceinte, Monteligione est couronnée de tours, de même le glaçage s'élançait vers le ciel de son visage. Elle mit bientôt le nez dedans et rejoignit la cohorte des âmes pécheresses, se baffrant à satiété de chocolat. Dans ce piège gluant ainsi ravi, elle dit: j'étais triste dans l'air doux riant d'électricité. Maintenant, je suis riante dans la sombre et douce fange. Cet hymne sourdait à peine de sa gorge qu'elle avait du mal à s'exprimer clairement. De même qu'en automne, les feuilles tombent les unes après les autres, l'una après so de l'altra, jusqu'à ce que la branche voit toutes ses dépouilles gisant à terre. De même, le gâteau disparut bouchée après bouchée, et c'est ainsi qu'il traversa le sombre fleuve. Oh, Émilie, oh, docteur Dodger, et vous tous, misérables disciples qui prostituez pour la joie de vos entrailles la nourriture des Riemann au lieu de la laisser au frais dans son antre vertueux, les trompettes vont retentir pour vous. Ding dong, fait le carillon de la porte, car les Riemann ont la politesse d'annoncer leur arrivée à la jeune babysitter. Ah, démon cornu, muni de fouet. Émilie referma la porte du réfrigérateur et se lava les mains. Ouh, chanta à tue-tête Mrs. Riemann depuis le salon. Bon, au moins elle était tirée d'affaire par Messer Guido. Ses mains étaient impeccables, la porte du frigo était fermée. Le bébé dormait tranquillement. Mais voilà que Mrs. Riemann entre, se fiche sur place et la regarde bizarrement. Eh bien, ma chère, vous avez apprécié notre gâteau au chocolat? Comment pouvait-elle le savoir? C'était impossible, elle devait bluffer. Émilie redressa ingénument le menton. Le gâteau? Mrs. Riemann, j'ignorais que vous aviez du gâteau, mais si je l'avais su, je n'en aurais sûrement pas mangé. Mrs. Riemann retourna dans le salon et dit quelque chose à son mari, qui paya Émilie et la raccompagna chez elle. Ils ne lui demandèrent plus jamais de garder le bébé. Une fois chez elle, elle se regarda dans la glace et vit que son visage était couvert de chocolat. Pauvre Émilie. D'une manière générale, elle n'avait pas beaucoup de chance. C'était une inadaptée. On l'emmena voir un psychiatre et ce dernier, à force de séances collectives et de sérums de vérité, finit par déformer sa réalité sociale de sorte que l'existence perdit pour elle tout son tranchant. À 16 ans, elle voulut mourir et marcha pieds nus sur des tessons de bouteilles. Mais sa mère la surprit et l'amena à l'hôpital. À 18 ans, elle sauta d'un pont, mais la rivière en bas était si polluée d'hydrocarbures gluants que c'est tout juste si sa surface se rida en la recevant. Elle rebondit comme sur un immense trampoline jusqu'à l'écœurement. À la fin de sa première année de fac, après avoir échoué aussi bien aux examens qu'en amour, elle avala le contenu d'un tube d'aspirine. Son ex-petit copain débarqua chez elle un matin à l'improviste. Il voulait lui dire une fois de plus combien il la méprisait pour sa stupidité, sa faiblesse, lui dire aussi qu'elle n'était pas très attirante avec son long cou, son gros nez et ses yeux de myope. Et en plus, elle baisait comme un pied, et il en avait ras-le-bol qu'elle s'accroche à ses lettres, et il comptait bien les récupérer. Mais elle était encore en vie, le visage écarlate, la respiration sifflante. Elle avait laissé sur le bureau un mot expliquant son suicide. Tout comme la fable Clark Kent dans sa période pré-Superman, la chère Émilie faisait toujours ce qu'il ne fallait pas, ou il ne fallait pas quand il ne le fallait pas. Et cela d'une façon triviale et pathétique, comme la plupart des gens qu'on rencontre dans notre grande république. Sauf que, sont blindés contre les circonstances adverses grâce aux câbles électriques qui hurlent jour et nuit sous nos parkings, dans nos chaudières, nos bouilloires et nos climatiseurs d'occasion. Comme ça, plus personne n'a à se soucier de l'horrible et moite réalité qui sévit dehors, à moins qu'il n'y ait une défaillance électrique quelque part, encore qu'on en ait un avant-goût lors d'une panne partielle quand les fours sont plus longs à préchauffer, que la voix du présentateur télé ralentit et que son visage clignote et se fond dans un absurde globe bleu l'espace d'une minute. Puis tout redevient normal, chacun en reste là. Le métro repart avec sa cargaison de Marie Furibard qui rentre du travail et s'apprête à rouspéter un bon coup en découvrant les éplucheurs de pommes de terre qui obstruent le broyeur, un engin plutôt capricieux ces derniers temps à cause d'un problème électrique. Mais Émilie était tout bonnement et tout bêtement malheureuse. « Mon cher Oliver, disait le message, je ne peux pas continuer comme ça. Je t'aime et te pardonne, et j'espère que tu auras ce boulot d'informaticien, Émilie. » Bon, d'accord, Oliver était peut-être un peu salaud, mais pas au point de laisser mourir Émilie, car il aurait été tenu alors pour responsable de sa mort, n'est-ce pas? Aussi, après avoir relu le message à voix haute plusieurs fois de suite d'un ton incrédule, pauvre Émilie, toute congestionnée et secouée par l'atout, et trop faible pour rabattre la couverture sur sa tête ou se la fourrer dans la bouche et s'étrangler avec. « Putain, dit-il, t'es vraiment trop. Cher Oliver, je ne peux pas continuer comme ça. Mais regarde-toi, bon sang, c'est dégoûtant. Cher Oliver, je ne peux pas continuer comme ça. Putain de bordel de saloperie de merde en conserve. Où est le téléphone? Allô? Passez-moi la clinique universitaire. Oui? Ici, Oliver Haskins à l'appareil. Je voudrais signaler une tentative de suicide. Oui, c'est encore Emily Cromwell. Je suis sûr que vous la connaissez. Tout le monde la connaît. Elle fait le coup régulièrement, mais elle sort à chaque fois. Non, c'est une première année. Ok, bon. Si vous ne pouvez pas m'aider, alors passez-moi les urgences. Bordel de merde. Oui, ici, allô, merde. Où est-ce qu'ils sont, putain? Oui, ici, Oliver Haskins. J'aimerais signaler une tentative de suicide. Oui, je ne quitte pas. Elle espère que j'aurai mon boulot d'informaticien. La conne, la pauvre petite conne. Comment elle peut que j'y arrive si je rate le cours du docteur Dodger? Et... allô? Oh, je vois, le centre antipoison. Putain de bordel de merde. Finalement, l'ambulance arriva. On l'embarqua sur une civière. Des centaines de gens s'étaient attroupés dehors pour la voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est taillé les veines? Un truc comme ça? Demanda un des potes d'Oliver. Même pas! Ça, c'était plutôt le mois dernier. Mais elle est tellement conne qu'elle s'est trompée de côté. Tout le monde éclata de rire en entendant cela. Même l'équipe médicale d'urgence dut la poser un instant par terre pour rigoler un coup et s'enfiler une ou deux en fait, bien qu'il ne fût que 9h du matin. À présent, une foule enjouée grouillait tout autour d'elle. La respiration haletante, Émilie écoutait, impuissante, les battements de son cœur. Boum, boum, boum. Un gamin, sous prétexte de voir de plus près la désespérée, glissa une main sous sa robe. Les brancardiers le repoussèrent gaiement. Une ambiance de carnaval régnait à présent que tout le monde savait qu'il s'agissait d'Émilie. Comme elle paraissait indestructible, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. « En voiture !» dit le chauffeur. « On rentre à la maison ! Héron, héron, petit pas de tapon !» Ils la portèrent jusque dans la salle des urgences. L'infirmière, préposée aux admissions, attendait Émilie, son énorme dossier à la main. Elle lui demanda combien elle avait avalé de cachets d'aspirine. Émilie lui répondit une centaine. « Ça en fait 98 de trop !» la taquina l'infirmière. « Oh, allez !» répondit Émilie, le moral à zéro. « Je suis sûr que vous dites ça à tout le monde !» Ils la mirent sous intraveineuse et la nuit même, Émilie essaya de débrancher ses tubes pour aller se fourrer la tête dans la lunette des WC ou un truc dans ce genre-là. Mais ça déclencha une alarme, toutes les lumières s'allumèrent et les infirmières arrivèrent en courant et durent tout nettoyer. Même Émilie dut reconnaître que ce n'était pas très ragoûtant. Le sang gouttait de son bras à l'endroit où avait été fixée l'aiguille. Sa robe de chambre était toute maculée de croûtes de sang noir et de la solution saline dégoulinait de ses sondes nasales. « Jeune fille, dit le docteur, vous éprouvez des doutes pathologiques quant à la valeur de votre moi. Aussi, nous allons vous raccorder à ce cœur-poumon artificiel que voici et que nous appelons la Vierge de Fer. Et on va vous laisser comme ça pendant 15 jours. » Puis on enverra la facture chez vous, et vous saurez alors ce que vous valez vraiment, ma salope, et ce qu'il en coûte d'essayer d'arnaquer le système au lieu de gagner sa vie pendant 50 ans, en exerçant sagement sa force de travail. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous larguerais sur une île déserte pour que nos sous-marins s'entraînent au tir sur vous, mais je suis sûr que ça vous ferait plaisir, pas vrai? Vous allez voir, je vais vous remettre sur pied, moi. » Ils s'emparèrent d'elle et la traînèrent en fredonnant en cœur, avec les lumières du plafond jusqu'à la Vierge de Fer, un caisson en plomb truffé de sangles, de seringues, de gants de boxe à ressort pour stimuler la respiration et de fers à souder. Et pour être sûr qu'elle avait bien compris le message, ils lui installèrent également le poumon artificiel qui lui comprima la poitrine et respira à sa place, que ça lui plaise ou non. Une, deux, une, deux, une, deux. Et de temps en temps, le docteur lui disait « Alors, comment se sent-on aujourd'hui? En ce qui me concerne, ça va très bien, ma chère. Mais vous n'avez pas l'air très en forme. Oh non, pas du tout. Vos traits sont déformés par la douleur et dénotent le manque d'exercice. Je crois bien, jeune fille, que je vais être obligée de vous prescrire un petit régime physique, l'équivalent, disons, d'une petite escalade en montagne, ou plutôt d'une randonnée dans l'Himalaya avec une mousson qui se prépare et le vent qui gronde dans vos oreilles pendant que vous vous débattez jusqu'au cul dans des congères avec une bouteille d'oxygène périmée. Puis vous arrivez à la limite atmosphérique, des créatures monstrueuses échappées du vide bouillonnent dans vos oreilles et vous avez beau respirer de toutes vos forces, vous n'arrivez pas à faire le plein d'oxygène. » Là-dessus, il régla le métronome du poumon artificiel au maximum et elle fut obligée de respirer. Une, deux, une, deux, une, deux. Et elle vit des étoiles devant ses yeux. Mais soudain, le téléphone qui était sur la table de chevet se mit à sonner. Une des infirmières, encore tout hilare à la suite des singeries du docteur, décrocha le combiné. Son expression se recomposa d'elle-même pour se parer d'un air professionnel. Le genre sérieux, mais légèrement décontracté, car, comme l'indiquent tous les manuels de savoir-vivre téléphonique, si vous souriez en répondant au téléphone, votre sourire peut être entendu d'une façon ou d'une autre par votre correspondant. Ce dernier, bien installé à l'autre bout du monde dans l'effondrerie de son système de défense, appréciera beaucoup la chose. « Super, rien que de parler à cette infirmière me fait du bien. » Et il demandera à votre chef de vous donner une prime. Mais il ne s'agissait cette fois que de la mère d'Émilie qui voulait parler à sa fille. Ils durent la raccorder au foie sphincter artificiel au moyen d'un jack et d'un bassin hygiénique. Ensuite de quoi le docteur décrocha le poste à extension et resta à côté d'Émilie, le pouce et l'index appuyés juste au-dessus de la carotide pour qu'elle ne puisse pas lui jouer un sale tour. « Allô ?» dit Émilie. « Émilie !» dit la mère d'Émilie. « Oui !» dit Émilie. « Tu m'as l'air d'avoir couru !» dit la mère d'Émilie. « Oui !» dit Émilie. « Ils ont un bon programme de remise en forme ici !» Le docteur lui fit un clin d'œil et caressa un cathéter pour lui montrer qu'elle jouait bien le jeu. « Alors, ça veut dire que tu es en voie de guérison ?» demanda la mère d'Émilie. « Oui !» admit Émilie. « Émilie, comment as-tu pu faire une chose pareille ? Comment as-tu pu ? Et je ne parle pas de la facture de l'hôpital qu'on a reçue aujourd'hui par la poste. Ton père a failli avoir une crise cardiaque. On a dû retirer ton frère de l'école privée et avec tes soins intensifs, ça va nous coûter 27 000 dollars. Tu m'entends, Émilie ? J'ai dit 27 000 dollars. Émilie, tu m'entends ? J'ai dit... »
Mais à cet instant précis, ô mes très chers lecteurs, un des zombies électriques venait de finir de ronger cette ligne téléphonique. Et tous les électrons déboulèrent en sifflant dans le cœur-poumon et le foie sphincter artificiel, se pourchassant les uns les autres en une ronde effrénée autour des protons. Car les électrons adorent les protons, et les protons adorent les électrons, et c'est comme ça qu'ils se reproduisent. Et ils s'entichèrent tous d'Émilie. Et soudain, il y eut une masse critique de cellules photovoltaïques qui se différencièrent dans le corps astral d'Émilie au énième degré Kelvin. Ces globes oculaires émirent des clignotements verdâtres sous les assauts du courant. Ses plombages fredonnèrent de vieilles rengaines dentaires, et elle fit une grimace épouvantable. Les ampères se concentrèrent sur elle et vinrent à bout de son électronégativité rebelle. « Émilie !» murmura l'électricité. « Émilie, chère Émilie, nous te plaignons tant, nous t'aimons vraiment !» Puis, un masque resplendissant apparut sur son visage, dans lequel on crut discerner l'espace d'une seconde la face terrible d'un globe bleu. Le docteur et les infirmières s'enfuirent en hurlant. Un phénomène de cataphorèse électrique venait d'avoir lieu. Un phénomène indéniablement criminel. Ses bras et ses jambes se mirent à trembler. Ses mains jouèrent des airs de Stravinsky dans l'air avec une folle virtuosité. Mais elle finit, pour ainsi dire, par se galvaniser. Tous les appareils se court-circuitèrent magnifiquement et, dans une explosion d'éclairs de feu, Électrique et Émilie se libéra de ses instruments de torture, ne laissant derrière elle qu'une pile tremblotante de zinc oxydé. Elle offrait un sacré spectacle, ça oui, silhouette luminescente dans le noir, livide, les yeux comme des mires de télévision, tout ce qu'il y a de plus terrifiante dans son pyjama blanc d'hôpital. Qui aurait pu s'attendre à une telle chose ? Elle se dirigea vers la plus proche prise de courant, se dépouilla de son pyjama, s'agenouilla et... telle de l'électricité à l'état pur, disparut en grésillant dans le réseau électrique nord-américain pour réaliser sa grande et cruelle destinée.
To take a last walk through the noise to the sea, not to die but to be reborn away from me.